France Info.
L'Europe face à Donald Trump et à Vladimir Poutine. Question toute simple, Emmanuel Macron va se rendre lundi à Washington. Le Premier ministre britannique, c'est jeudi. Est-ce que ces déplacements, Vibeke, sont importants pour l'avenir de l'Europe, pour l'avenir de la paix en Ukraine?
Bah, c'est sûr qu'il faut, il faut y aller, il faut discuter avec Trump, ça me paraît essentiel. Mais je trouve que la tactique qu'a choisie Emmanuel Macron est un peu bizarre, parce qu'il a dit sur Internet, en plus, pas dans un cadre
sociaux,
plus.
Ouais.
Il a dit à l'avance ce qu'il avait l'intention de dire à Trump.
Oui, mais alors peut-être que justement il va pas dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il a peut-être une autre stratégie, Richard.
Oui, Emmanuel Macron, d'abord, il a toujours cru dans sa capacité à séduire ses interlocuteurs. Il pense que le fait de connaître Donald Trump, il est l'un des rares dirigeants européens à avoir expérimenté Donald Trump version 1.
Oui.
Il pense que c'est un atout. Il pense aussi que la France, et il a raison, a une image et un poids particulier aux yeux des États-Unis, pour les raisons qu'on connaît. Donc tout ça mis ensemble, il pense, Emmanuel Macron, qu'il peut faire la différence, en gros qu'il peut tirer le frein à main dans un Donald Trump qui, comme c'était dit tout à l'heure, est un peu dans une position kamikaze en train d'aller à pleine vitesse. C'est un vrai pari. Je n'ai même pas compris du tout, à vrai dire, pourquoi la visite initialement devait être conjointe avec le Premier ministre britannique et pourquoi elle a été dissociée. Qui l'a demandé, je n'ai pas suivi. En tout cas, il faudra que ces deux personnes, Emmanuel Macron et Keir Starmer, aillent dans le même sens. Il faut vraiment arriver à démontrer l'unité européenne, même si le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Enfin, il y a un élément qui sera crucial, c'est qu'au moment même où Emmanuel Macron parlera à Donald Trump, si l'on tient compte du décalage horaire, il y aura à Kiev, en Ukraine, la commémoration des 3 ans de conflit avec la Commission européenne représentée, presque, je crois, tous les commissaires européens qui seront sur place. Donc les deux événements seront
le
absolument...
Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.
Voilà. Mm-hmm. Donc plus sans doute d'autres dirigeants européens. Donc il y aura une symétrie de ces deux événements. Ça, c'est très fort et il faut absolument faire ce lien.
Les États-Unis proposent aujourd'hui à l'ONU une résolution pour une fin rapide du conflit. Vicence, on a les moyens, comment je pourrais dire, de faire plier, entre guillemets, un peu Trump, de lui dire non mais nous, Européens, on doit être aux négociations, les Ukrainiens doivent être aux négociations.
C'est vrai que Trump, ce qu'il connaît, c'est le rapport de force, c'est Macron, ils se connaissent personnellement depuis 2017, maintenant qu'il est terminé, on va voir quel sera le rapport de force. Je crois que Macron joue très fort, il joue beaucoup, parce que avec Merkel, ils avaient une confiance avec Poutine, elle était trahie. Depuis après 2014, ils se sont rendus compte que finalement il les a complètement menti. Et si Trump, on va voir si Trump en fait il joue, il parle de l'incertitude de Trump qui est que ça met, même ça peut jouer en faveur parce que même ça peut mettre nerveux Poutine. Mais je me demande réellement si Macron il va faire une visite à Washington qu'il a fait une visite à Moscou et après. Les choses ne sont pas seulement changées, sinon que les choses ils étaient encore pires parce que la guerre a commencé. Je sais pas pourquoi ils vont séparer Keir Starmer et Macron. Et on parlait tout à l'heure de l'Allemagne. C'est l'Allemagne, il doit avoir un bois. Et je crois que Trump, il va jouer aussi avec les décalages de toute cette semaine qu'il va avoir une coalition ou pas en Allemagne.
Il va jouer effectivement là-dessus. Mais on parlait du couple franco-allemand. Le couple franco-britannique sur cette question. Là, il fonctionne plutôt pas mal, Richard.
Oui, alors il a toujours plutôt bien fonctionné sur les questions de défense. Pour des raisons simples, c'est que ce sont les deux pays d'Europe qui ont les armées d'Europe occidentale les armées la plus forte avec la dissuasion nucléaire. Le troisième personnage maintenant qui s'invite à la table en matière de défense, c'est la Pologne avec son armée européenne et ses investissements importants à hauteur de presque 5% du produit intérieur brut. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Keir Starmer, on connaît traditionnellement la position du Royaume-Uni, totalement aligné sur les États-Unis, on l'avait vu au moment de la guerre d'Irak, et on sait aussi, en tout cas si on en croit les Français, que la dissuasion nucléaire britannique est beaucoup plus tributaire des États-Unis que la dissuasion nucléaire française. Sauf que, là, pareil, un peu comme l'Allemagne, Musk et Trump ont tellement attaqué Keir Starmer, Premier ministre travailliste qui dispose d'une majorité très forte à la Chambre des communes, ils l'ont tellement attaqué que... Peut-être là, il y a un moment d'orgueil britannique, un orgueil dirigé pour la première fois depuis longtemps contre les États-Unis.
Alors justement, il y a une question, Vibeke, mais je vous en prie, vous alliez ajouter quelque chose.
Oui, je voudrais ajouter qu'il y a un troisième homme, peut-être. C'est notre nouveau ministre des Finances, Monsieur Stoltenberg, ex-secrétaire général de l'OTAN, oui, qui connaît Trump par cœur, et Trump l'apprécie, et ce qui donne la force à Stoltenberg, c'est qu'il a l'immense fonds pétrolier norvégien dans l'eau. Donc, il peut peut-être aussi avoir une certaine influence, parce qu'il faut quand même se demander, tous les jours, il y a une nouvelle information qui provient de Washington, où à chaque fois, Trump va encore plus loin dans le sens de Poutine. Et il faut quand même se demander, à un moment donné, est-ce que Poutine n'a pas un moyen de pression sur lui.
Il y a cette question de la défense européenne et de ce que pense chaque peuple de l'effort qu'on nous demande finalement. Mmh. Parce qu'il va falloir, si on part sur cette défense européenne, il va falloir augmenter le budget. Justement, l'opinion norvégienne, est-ce qu'elle est divisée sur cette question de défense européenne ?
Non, on est conscient qu'il faut augmenter sérieusement le budget de la défense. Ouais. Et on a les moyens de le faire.
Même question pour l'Espagne.
Et là-bas, ça se passe pas de la même manière, parce qu'on est un peu plus loin de l'Ukraine. Et surtout, il y a une coalition avec des partis qui sont plus à gauche, des partis socialistes de Pedro Sánchez. Et on n'arrive pas au 2%. On remarque beaucoup que Trump, il pose l'exemple de l'Espagne parfois, qu'il dépense pas beaucoup en dépenses militaires. Et comme j'avais dit la dernière fois, aussi, Pedro Sánchez, il est pas encore, comme l'Allemagne, disposé à envoyer des troupes d'interposition s'il y a...
Il était présent lundi dernier à Paris, justement, à cette réunion.
Et après, à l'ambassade espagnole, il a encore dit, comme le ministre des Affaires étrangères espagnol auparavant, que c'est pas le moment. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus froid avec cette possibilité. Et il y a aussi dans l'opinion publique espagnole, parce que peut-être on est un peu plus loin de l'Est, sur si on doit ou pas dépenser beaucoup plus en défense.
Richard, la Suisse, bon, c'est un cas à part, mais sur cette question.
Alors, c'est un cas à part, mais la population suisse est tout à fait consciente qu'il faut investir davantage dans la défense. Donc, du point de vue des préoccupations sécuritaires, elles sont là. La Suisse a fait de gros investissements. Elle a acheté des avions, d'ailleurs, américains, F-35, il y a 2 ans, qui seront livrés à partir de 2027. Donc, il y a un vrai souci de défense. Après, le débat, il porte sur un autre sujet spécifique à la Suisse, c'est la neutralité. Mmh. Jusqu'où va la neutralité ? Depuis le début du conflit en Ukraine, la Suisse a adopté une position, ce qu'on pourrait appeler une neutralité active, puisqu'elle applique les sanctions européennes contre la Russie. Mais il y a une initiative, vous savez qu'en Suisse, on vote sur tout, il y a une initiative populaire qui va donc arriver à un référendum qui demande une neutralité beaucoup plus restrictive, une neutralité originelle, où en gros la Suisse ne ferait rien, sauf se défendre elle-même. Le référendum, on n'y est pas encore, et on verra, ce sera très intéressant, le résultat.